France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, bonjour. Nous commençons cette émission en vous présentant nos meilleurs vœux pour la fête de la Nativité du Christ, célébrée par l'Église orthodoxe le 25 décembre ou le 7 janvier, en fonction du calendrier suivi. Nous commençons par un entretien avec Marie-Hélène Congourdeau, byzantiniste, ancienne chargée de recherche au CNRS, autour de l'ouvrage intitulé « Nicolas Cabasilas, Incarnation et Maternité divine, Sisomélie ». Livre paru en 2024 aux éditions du Cerf et éditions Migne, dans la collection « Les Pères dans la foi ». Une belle manière de célébrer Noël, puisque cette fête est par excellence celle de l'incarnation de Dieu. Marie-Hélène Congourdeau, bonjour.
Bonjour.
Alors, Nicolas Cabasilas est un auteur que vous connaissez très bien, puisque vous travaillez depuis longtemps sur ses œuvres. Une première question, donc, avant de rentrer dans le détail de ces six homélies sur l'incarnation. Quel est le sens profond de ces textes ?
Alors, l'importance de ces textes, qui sont des homélies, justement, c'est que ce sont des textes de la fin de la vie de Nicolas Cabasilas, et que l'on a donc l'aboutissement de sa pensée théologique, et que ça nous fait faire des découvertes sur l'évolution de sa pensée théologique depuis ses premiers textes jusqu'à la fin de sa vie. Et il y a une évolution qui est presque, on pourrait presque parler d'une révolution dans sa pensée théologique.
Donc une vraie évolution théologique, évidemment, que l'on peut remarquer lorsqu'on connaît très bien un auteur. Alors, un auteur du XIVe siècle, qui a vécu pendant la crise palamite, hein, est vénéré comme saint quand même par l'Église orthodoxe, et sur lequel, je répète, vous avez beaucoup travaillé, en particulier son œuvre « La vie en Christ », qui est une œuvre fondamentale pour qui s'intéresse à ce genre de sujet, et évidemment, je dirais, pour tout chrétien, en dépassant tout à fait les limites de son temps. Et là, vous dites qu'avec ces six homélies, vous remarquez aussi des changements dans sa pensée, une évolution dans « La vie en Christ » que vous avez édité il y a longtemps.
Oui, en fait, j'ai édité dans les années 89-90, « La vie en Christ », donc je connais ce texte depuis très longtemps. Mais c'est la lecture de ces homélies, la traduction de ces homélies de la fin de sa vie, qui m'ont tout à coup interpellée en me disant, je me suis dit, mais il dit quelque chose qui ne va pas avec la vie en Christ. J'ai donc repris la vie en Christ, et là je me suis aperçue d'une chose, c'est que l'évolution de la pensée de Nicolas Cabasilas est à l'intérieur même de la vie en Christ. C'est-à-dire que, d'après les manuscrits, nous savons qu'il a écrit « La vie en Christ » en plusieurs étapes. Une première étape en 5 livres, et on a des versions en 5 livres, puis une en 6 livres, il a rajouté un 6e, puis il a rajouté en 7e, sans changer ce qui était avant. Ce qui fait que nous trouvons dans le livre 2, dans le livre 1 et le livre 4, je crois, dans mes souvenirs, enfin, dans la première version, nous trouvons la théorie de la rédemption empruntée à saint Anselme de Canterbury.
Donc un auteur occidental.
Un auteur latin, donc, qui a écrit le cours Deus Homo, pourquoi Dieu s'est fait homme, et qui expliquait que Dieu a créé l'homme, l'homme a péché, et Dieu a dû, comme seul l'homme était redevable et seul Dieu était capable de racheter cette faute, eh bien, il a fallu Dieu, un être qui était à la fois Dieu et homme, donc un Dieu fait homme, le Christ, vienne pour racheter, pour mourir et racheter le péché de l'homme. Ça, c'était donc la théorie d'Anselme qui est exposée très clairement dans la première mouture de la vie en Christ. Mais, quand on arrive au 6e, on s'aperçoit que le schéma que Nicolas Cabasilas expose est tout à fait différent. Dieu avait prévu de toute origine que son fils se ferait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Mais ça, c'est pas seulement après le péché, c'est avant même la création de l'homme, et donc indépendamment du péché. Dieu crée l'homme, il se fait homme en son fils, et donc l'homme devient réussit à être, enfin, est divinisé. Mais ça, ça pouvait pas marcher à cause du péché. Donc il y avait quelque chose à racheter, et c'est pour cela que il y a eu ce changement dans la pensée de Dieu. Il a décidé de se faire homme, il est mort pour racheter les péchés, il est ressuscité, et donc l'accident étant résolu, le projet initial de divinisation pouvait s'accomplir. Et ça, c'est évidemment tout à fait différent. L'incarnation prévue dès avant la création, c'est totalement différent du schéma d'Anselme. Et c'est ce schéma, ce nouveau schéma, qu'on le retrouve dans les homélies, donc certaines des homélies qui sont ici traduites. Alors je me suis posé la question, mais comment se fait-il qu'est-ce qui l'a poussé à changer d'avis ? Donc, en réfléchissant beaucoup, et en étudiant un peu l'évolution, enfin la nouvelle version de sa théologie, enfin, ce que l'on trouve dans la vie en Christ et dans ses homélies, je me suis aperçue qu'on y retrouvait des thèmes tout à fait propres à Maxime le Confesseur, c'est-à-dire la distinction entre le logos, raison d'être, et le tropos, mode d'être, qu'il expose vraiment très clairement. L'insistance terrible sur la liberté humaine, qui est aussi un thème très présent chez Maxime le Confesseur, d'autres thèmes moins importants, mais qu'on retrouve chez Cabasilas dans ses homélies et dans la deuxième mouture de la vie en Christ, et qui viennent de Maxime le Confesseur. Et donc je me suis dit, il a lu Maxime le Confesseur à ce moment-là. Et je pense que c'était parce que, à son époque, il y avait une arrivée assez massive de textes de théologie latine traduits en grec, et que il a rencontré donc des thèmes qui étaient intéressants, mais qui ne collaient pas avec sa théologie orthodoxe. Et il a eu recours à la lecture de Maxime le Confesseur pour trouver des réponses et pour trouver, tout en prenant en compte les questions posées par les latins, leur trouver une réponse totalement orthodoxe.
Alors, il faut rappeler aussi que Maxime le Confesseur est un très grand auteur du 7e siècle, qui a pris part au grand débat sur les volontés du Christ.
Voilà.
Et ce qu'on appelle le monothélisme, qui a été condamné après par l'Église et qu'il en a souffert parce que on lui a coupé la langue, on lui a coupé la main, qu'il allait contre la théologie impériale de l'époque.
Voilà. Et parce qu'il insistait sur le fait que le Christ avait une volonté humaine et non pas seulement une volonté divine.
Et c'est donc la doctrine que l'Église a adoptée de manière très solennelle en concile, et que Maxime est lu et relu, je dirais, au XIVe siècle, au moment de la querelle Palamide, ce qui explique que Cabasilas l'a lu à ce moment-là, peut-être. Et ça, c'est très important. Alors, je voudrais un mot aussi sur ces homélies. Alors, il y a une chose, je donne des titres sur la nativité de la Toute-Sainte Notre-Dame, Mère de Dieu, donc, sur l'Annonciation de la Souveraine Mère de Dieu, sur la Passion salutaire et vivifiante de notre Seigneur Jésus-Christ, sur l'Ascension de notre Seigneur, sur la Toute-Sainte et très glorieuse Dormition de Notre-Dame, la Mère de Dieu. Alors d'abord, on voit qu'on suit l'ordre liturgique.
Oui.
Je rappelle que l'année liturgique commence le 1er septembre, et c'est donc ordonné comme ça. Et on est étonné de ne pas voir d'homélie sur Noël, puisqu'il ne parle que de l'incarnation en fait. Sur Pâques non plus. Hein,
c'est... Voilà. Bon. Alors que pour lui, la résurrection du Christ, c'est vraiment le nœud de l'histoire. Non, en fait, ces thèmes de l'incarnation et de la résurrection, Noël et de Pâques, bon, il les traite de façon très très développée dans la vie en Christ, dans l'explication de la divine liturgie. Il aurait très bien pu faire des homélies, mais ce que je pense, c'est que il n'a pas choisi les thèmes. En effet, à la fin de sa vie, Il vivait dans un petit monastère à Constantinople et il semble que ses homélies soient des commandes des moines. Comme il vivait chez eux, est-ce que vous pouvez nous faire une homélie sur telle fête, sur telle fête ? Donc, il a répondu à la demande de ses moines et il a écrit ses homélies.
Donc, ces homélies sont en fait le résultat de commandes, on
voilà,
dirait.
Voilà,
oui,
je pense. Mais il en a profité. Il aurait pu faire de simples homélies très rhétoriques. Mais il en a profité pour approfondir encore sa pensée théologique. Et ce sont des homélies, puisque elles commencent par « Aujourd'hui, nous célébrons », etc. et qu'elles se terminent par « à la gloire du Père et du Fils », etc. Ce sont des vraies homélies. Mais, en fait, à l'intérieur, ce sont de véritables petits traités de théologie extrêmement profondes, avec des moments très lyriques. Des moments où il laisse parler son cœur et là on retrouve des accents qu'on a aussi dans La Vie en Christ. Ça, tous ceux qui ont lu La Vie en Christ savent qu'il parle avec son cœur et qu'il a un amour infini pour Dieu, pour le Christ. Et on s'aperçoit là pour la Vierge Marie aussi.
D'accord. Alors si on prend ces homélies dans les mains. Si bien traduite, hein. Alors je dis que vous êtes responsable de la traduction, mais vous les avez pas faites toutes seules.
Non.
Hein, c'est ça, c'est en compagnie de Sœur Marie Ricard.
Sœur Marie Ricard,
voilà,
c'est
un travail donc collectif, je dirais,
à
deux.
Qui est une bénédictine.
Qui est une bénédictine, mais vous êtes responsable de l'introduction, qui est quand même très bien faite, hein, pour comprendre. Mais après, si on prend le livre dans les mains, je pense d'abord qu'on peut lire ces homélies indépendamment, les unes des autres.
Hein,
tout à fait. Par quoi peut-on commencer, si je puis dire?
Est-ce
que vous conseillez?
Personnellement, je commencerai par le début, mais comme nous sommes au temps de Noël, je pense qu'on peut commencer par les homélies mariales, c'est-à-dire sur les homélies sur... la nativité, l'annonciation et la dormition.
Voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est, je dirais presque qu'on tourne autour du pot parce qu'on parle beaucoup de Marie et il ne parle jamais directement de la fête de Noël.
Oui.
Parce que, comme vous avez expliqué, on lui a demandé de faire des homélies pour d'autres fêtes.
Voilà.
Alors il y a peut-être des choses à lire, si vous voulez bien l'extrait.
Si vous voulez, oui. J'ai choisi deux petits passages dans des homélies mariales, puisque c'est de circonstances. Et tout d'abord, un petit passage de l'homélie sur la nativité de Marie, où il exprime le fait que, pour créer l'homme, Dieu avait en vue Marie. De la sorte, en ce monde, comme il en fut en paradis, Marie a manifesté l'homme dans sa pureté et son intégrité, tel qu'il fut façonné au commencement, tel qu'il devait demeurer, tel qu'il serait devenu dans la suite s'il avait lutté pour garder sa noblesse originelle. Comme il convenait que la nature humaine rejoignît la nature divine et s'y unit, si exactement que les deux natures ne fussent qu'une seule hypostase, on voit que c'est une théologie très, très, très
solide,
sûre.
Oui.
Il fallait tout d'abord que chacune d'elles, de ces deux natures, apparût sans mélange. Alors Dieu se montra comme il était possible que Dieu parût, tandis que la Vierge, elle seule, montra l'homme. Ainsi se montra Jésus qui, étant l'un Dieu, devint l'autre homme, chacune des deux natures dont il est résulté, ayant d'abord paru séparément. Donc, Dieu, dans la personne du Verbe, se montre, et Marie représente l'homme, non pas l'homme déchu, mais l'homme tel qu'il était prévu au départ.
Il s'est trouvé un être humain, en fait, pour répondre à Dieu.
Il ne s'en est trouvé qu'un, en fait, pour répondre parfaitement à la vocation de l'homme.
La personne de Marie.
De Marie.
Quelque chose de très court, peut-être, pour terminer.
Alors, une toute petite phrase sur l'Annonciation. « Les outils destinés à certains métiers, nous les contraignons à s'adapter à d'autres, si bien qu'il n'est aucunement nécessaire qu'ils s'accordent toujours à leur destination. Dieu lui, en créant, cherchait à recevoir de la nature humaine la mère dont il avait besoin pour naître. Ça, je trouve cette phrase extraordinaire. Comme il fallait qu'il s'incarne, en créant l'homme, il a pensé à sa mère. Puisque, pour s'incarner, il avait besoin d'une mère. Donc, il a créé l'homme pour trouver cette mère, pour, en vue de Marie. Et je trouve ça que c'est d'une audace théologique qui montre l'enthousiasme de Nicolas Cabasillas.
Audace et en même temps très inscrit dans la tradition.
Très inscrit dans la tradition,
oui. Tout à fait. Et puis cette insistance sur la liberté. On sait bien que Maxime insistait beaucoup sur le fait que les deux volontés se sont retrouvées
en
Christ, mais il y en avait vraiment deux.
Librement. Ouais. Librement. Sa volonté humaine a obéi librement à sa volonté divine. Mm-hmm. Donc la liberté de la volonté humaine est très importante et c'est une des qualités de Marie.
Voilà alors de très belles lectures pour ce temps de Noël et en même temps une leçon de théologie. Marie-Hélène Congourdeau, merci beaucoup. Je rappelle le titre de l'ouvrage présenté, Nicolas Cabasillas, Incarnation et Maternité Divine, 6 homélies aux éditions du Cerf et Migne 2024. Donc vous êtes responsable de l'introduction et des textes qui eux sont traduits par vous-même, mais également par sœur Marie Ricard. Et voici maintenant le moment de notre pause musicale avec un chant extrait de la liturgie de Noël par le chœur byzantin de Grèce sous la direction de Lycourgos Angelopoulos. Et après cet extrait de la liturgie de Noël, écoutons maintenant le message de Noël du métropolite Dimitrios, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France.
Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ est né, glorifions-le. Au nom de mes frères évêques, membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse un message de joie et d'espérance à l'occasion de la glorieuse fête de la Nativité de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La paix s'identifie dans le Nouveau Testament avec la personne même du Christ, et cette paix est magnifiquement proclamée par le chant des anges lors de la naissance du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. La paix est l'une des valeurs universelles que le christianisme a offertes à l'humanité. Elle se manifeste déjà dans la pensée antique comme un équilibre harmonieux par lequel les vertus sont amenées à croître. Cette annonce céleste nous invite à réfléchir à la nature même de la paix que le Christ est venu nous offrir. En effet, les exégètes de la parole de Dieu nous rappellent que cette proclamation angélique est à différencier de la Pax Romana, cette paix imposée par la force militaire et la domination. Par contraste, la paix que le Christ nous propose se distingue fondamentalement de cette paix politique. Il s'agit d'une paix qui naît de la liberté, non de la contrainte, comme le Seigneur lui-même l'affirme. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Mais cette paix chrétienne n'est pas passive, elle exige une action résolue et décisive de la part de toute personne de bonne volonté, prête à être des ouvriers de paix, des pacificateurs, en choisissant la liberté véritable dont le Christ est l'image par excellence. L'histoire nous enseigne que la paix est inséparable de la justice. En effet, les conflits ne surgissent pas sans cause. Ils naissent des inégalités et des injustices qui nourrissent les tensions, menaçant toujours plus la cohésion sociale. Pour que paix et justice fleurissent, nous devons nous atteler à une relecture des rapports de force plaçant au centre de nos préoccupations le sort des plus vulnérables. Ils sont les icônes du Christ dans le monde. Les guerres et conflits actuels, notamment en Ukraine et au Proche-Orient, illustrent la douloureuse réalité de notre monde blessé par la chute. En 2024, 10 conflits internationaux causent encore de terribles souffrances, soulignant l'urgence d'agir pour la paix. Les chrétiens doivent rester vigilants, prêts à agir et à prier pour la paix, qui se révèle mystérieusement sous les traits d'un nouveau-né dans la grotte de Bethléem. Aussi, au nom de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous renouvelle mes vœux les plus sincères. Que la lumière, la paix et la joie de Noël remplissent vos foyers et vos familles, vous apportant réconfort et espérance à l'aube de cette nouvelle année. Le Christ est né, glorifions-le.
Et avec le message de Noël du métropolite Dimitrios, prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Marie-Claire Oumabadi. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et voici maintenant Solae, le rendez-vous protestant par Jean-Luc Gadreau.